monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Bonjour tout le monde. Ce billet est en préambule à notre prochain billet. Il propose la lecture d'articles parus dans le Courrier et dans le satirique roman Vigous. Nous reviendrons sur ces lectures lors de notre prochain billet, réalisé sous forme d'entretien avec Melik Özden du 7e à Genève et Elena Rouska, journaliste à l'ONU. Ce billet propose donc la lecture d'une série d'articles parus dans le Courrier du 11 au 13 octobre 2019 et traitant de la problématique réglementation des multinationales. Dans un dossier intitulé « Multinationales pour en finir avec l'impunité », un éditorial ainsi que trois articles amènent un éclairage à ce sujet en l'état actuel. Il y est également question de deux débats qui vont être engagés à l'ONU pour encadrer juridiquement l'action des multinationales et réglementer l'arbitrage. Vaste programme donc, succinctement présenté par ces articles que nous vous invitons à écouter.
Hors la loi, jusqu'à quand ? La proposition rendue publique mercredi par l'OCDE pourrait faire date. Du moins, elle casse un tabou. À l'heure de l'économie numérique globalisée, la souveraineté fiscale ne peut plus être absolue, défend l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Dans son principe, le dispositif prévoit qu'un État puisse imposer une multinationale active sur son marché national, bien que le service soit entièrement ou partiellement fourni depuis l'étranger. La disposition soumise à consultation est évidemment destinée aux géants du web, Google, Facebook et compagnie. Mais elle ébranle l'entier du système de l'optimisation fiscale. Instrument des pays riches, l'OCDE fut longtemps le fer de lance du libéralisme le plus décomplexé. Et lorsqu'il fallut s'adapter à l'ère du capitalisme compatissant, l'organisation mit en place un mécanisme de contrôle des multinationales, dit des points de contact nationaux, dont la fonction première était de prévenir toute réglementation internationale un tant soit peu sérieuse. Sans parler de sa piètre chasse aux paradis fiscaux lancée dans le sillage de la crise de 2008. En brisant le tabou de la souveraineté fiscale, l'OCDE semble franchir un palier. Sous la pression de grands États saignés dans leurs recettes, des mesures de transparence, de réciprocité et d'harmonisation avaient déjà été prises, conduisant par exemple la Suisse à renoncer aux statuts spéciaux des sociétés étrangères et à accepter l'échange d'informations fiscales. Mais le système HEP sur les transferts financiers réalisés entre les filiales de ces géants tentaculaires, l'OCDE semble déterminé à ne pas s'en laisser compter. Et le vent de la régulation ne s'arrête pas aux enjeux fiscaux. Aujourd'hui, rares sont les traités de libre-échange qui ne provoquent pas de débats enflammés. Partout en Europe, pétitions massives et initiatives législatives réclament que les transnationales n'échappent plus à leurs responsabilités en se cachant derrière une filiale galeuse ou un accord de protection des investissements. La semaine prochaine, pas moins de deux instances onusiennes en débattront à Vienne et à Genève, sous la pression grandissante de ceux qui refusent que des acteurs parmi les plus puissants de la planète puissent se soustraire aux lois tout en imposant les leurs aux États. Mais, à l'instar de la lutte climatique, seule la rue peut obliger, malgré les lobbies, de passer des paroles aux actes. Une bonne raison de rejoindre le cortège de samedi à Genève contre l'impunité des transnationales. Les accords sur les investissements et l'arbitrage international protègent les entreprises face aux États. Mais qui nous protège des multinationales ? Le débat animera l'ONU dès lundi. L'équation peine à trouver sa solution. Du 14 au 18 octobre 2019, Genève accueille une nouvelle session de travail onusienne sur l'économie et les droits humains, censée accoucher, à terme, d'un traité encadrant juridiquement les multinationales. Parallèlement, des réformes du système de règlement des différends entre investisseurs et États, RDIE, seront discutées au sein de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, la CNUTSI, à Vienne. L'occasion pour ONG et militants de réitérer leurs revendications face à la toute-puissance des transnationales, un traité onusien réellement contraignant, ainsi que l'abolition du RDIE, règlement des différends entre investisseurs et États, accusé de favoriser les investisseurs, sont les voies privilégiées en jeu. Intérêt privé contre droit public. Réglementer l'impact des entreprises sur les droits humains. Tel est le défi du groupe de travail intergouvernemental qui se réunit pour la cinquième fois la semaine prochaine au Palais des Nations. Salutaire, mais pour l'instant peu convaincant, selon Gonzalo Bejon, pour qui les dernières négociations n'ont pas fourni les garanties nécessaires en matière d'obligations et de sanctions envers les entreprises fautives. Tant que ce futur traité ne mettra pas les droits humains au-dessus de toute autre considération légale, le chercheur au Transnational Institute, Gonzalo Bejon, craint un texte proclamatoire, vidé de son caractère contraignant et incapable de faire le poids face au maillage de plus de 3300 accords économiques par lesquels les États s'imposent mutuellement la protection rigoureuse des intérêts des investisseurs. D'autant que, contenu dans la plupart de ces accords, le règlement des différends entre investisseurs et États joue en faveur des détenteurs de capitaux, explique sa collègue Pia Eberhardt. Il permet à ces derniers d'attaquer un État auprès d'une cour internationale composée d'arbitres privés, s'ils estiment qu'un changement de politique, non couvert par l'accord qui les lie, nuit à leur profit, et de demander des dédommagements financiers. Grand acquis du XXe siècle. D'après cette militante du Corporate Europe Observatory, la multiplication de tels procès, de quelques cas annuels à plus de 70 en 2018, et des frais engendrés, est une arme qui affaiblit la réglementation des droits humains. Ainsi, l'an dernier, des arbitres jugeaient à la haie que la justice équatorienne avait illégitimement sanctionné les activités polluantes du pétrolier américain Texaco en Amazonie, au profit des autochtones lésés. Une justice biaisée pour Damon Wisdenbar, du centre arbitral de la Banque mondiale qui fournit le cadre réglementaire de la majorité des cas de RDIE connus, c'est plutôt un outil indispensable. Avec 1200 milliards de dollars annuels de flux d'investissements internationaux, ces arbitrages fournissent un cadre de résolution de litiges dus à la complexification de l'économie mondiale, selon Damon Wisdenbar du Centre arbitral de la Banque mondiale. Mathias Scherer, associé au sein de l'étude genevoise LALIV, très active sur le RDIE, estime, lui, que la possibilité de saisir un tribunal neutre pour se protéger des actes d'un État étranger est un des grands acquis du droit international public du XXe siècle, autant sur le plan des échanges commerciaux que sur celui des droits de l'homme. Expropriation indirecte. Doctorant, travaillant sur l'histoire de l'arbitrage commercial à l'Université de Lausanne, Guillaume Bossir explique que ce type de procédure a commencé à s'instituer dans les années 1960. Afin de protéger les investisseurs du Nord, de mesures de pays récemment décolonisés et jugés autoritaires, telles que l'expropriation. Une notion qui s'est étendue à la fin du siècle au concept extensif d'expropriation indirecte, ouvrant la voie à des remises en cause des choix de régulation publique, continue Christophe Peltz, professeur à l'université McGill. D'ici à 2020, le nombre d'arbitrages RDIE pourrait dépasser le millier, selon le programme de l'ONU sur le commerce et le développement. En 2018, la majorité des sentences était en faveur des investisseurs, pour des sommes allant jusqu'à 2 milliards de dollars que l'Égypte doit à Union Fenosa, pour avoir failli à sa provision de gaz durant les pénuries du printemps arabe, au regard du traité bilatéral qui les unit. Vers un traité contraignant. Pour Kathleen Cordes, la situation actuelle crée autant d'incitatifs pour les gouvernements à ne pas froisser les intérêts des multinationales. Si historiquement les cas de RDIE étaient rares, et les investisseurs ne gagnaient qu'une minorité de leurs procès, l'explosion de procédures controversées au montant mirobolant en faveur des investisseurs n'augure rien de positif pour les droits sociaux et environnementaux, selon la chercheuse en investissement durable Kathleen Cordes. Une crise de régime, dont les issues potentielles se discuteront la semaine prochaine au sein de la CNUTSI à Vienne. Toutes les possibilités sont sur la table, d'aménagements à la marge du RDIE à son abolition, en passant par la création d'un nouveau système d'arbitrage, selon Corinne Montineri, juriste auprès de l'organisme. Reconnaissant certaines critiques du RDIE, Elliot Geisinger, président de l'association suisse d'arbitrage, estime que de réels progrès ont déjà été faits, notamment sur la transparence. D'autres réformes sont en cours et nécessaires, mais un renoncement à ce mécanisme de litige neutre poussera à ne plus investir. À Genève, des manifestants demanderont que l'ONU privilégie avant tout les droits humains. Selon eux, rééquilibrer un droit trop favorable aux investisseurs ne pourra que passer par un traité international contraignant, censé enfin garantir des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales.
Un plan de l'OCDE pour taxer les GAFA. Fiscalité. L'OCDE veut harmoniser la taxation des géants du net et des multinationales. L'organisation a publié mercredi ses propositions. Les négociations pourraient aboutir à des règles dès l'an prochain. En Suisse, cela pourrait se traduire par des pertes fiscales. Selon le projet, les grandes entreprises ne paieraient plus seulement leurs impôts au siège du groupe, mais aussi dans les pays où les biens sont exportés et vendus et où les bénéfices sont générés, selon un communiqué de l'OCDE. Un taux minimal d'imposition serait en outre établi. La proposition constitue la base des prochaines négociations entre les 134 pays membres. Elle vise surtout à résoudre la taxation des multinationales qui réalisent des bénéfices sur des marchés sans y être physiquement présentes. Dans le viseur, Google, Amazon, Facebook et Apple. Le nouveau régime doit être mis en place rapidement. De réels progrès ont été accomplis pour résoudre les problèmes fiscaux induits par la numérisation de l'économie, a déclaré le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria. Un consensus devrait émerger d'ici 2020, selon lui. Si cet objectif n'est pas atteint, cela renforcera le risque que des pays agissent unilatéralement, ce qui aurait des conséquences négatives pour l'économie mondiale déjà fragilisée. La proposition de l'OCDE se base sur trois piliers. Le premier délimite le champ d'application de la nouvelle taxe pour les groupes qui ont une interaction significative avec les consommateurs finaux. En seraient exclues celles qui n'ont pas de lien direct avec le public, comme les équipementiers automobiles qui vendent leur production à des fabricants. Dans le deuxième pilier, elle prévoit un système pour déterminer si oui ou non un pays pourra imposer une multinationale en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est le volume de chiffre d'affaires qui déterminerait un nouveau droit d'imposer pour les pays, a expliqué Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. L'organisation a cité par exemple une limite de 750 millions d'euros. Enfin, elle fixe la garantie juridique pour les multinationales avec un mécanisme d'arbitrage en cas de litige entre États et grands groupes afin d'éviter une double imposition. Interrogé sur les conséquences de cette proposition pour la Suisse, le secrétariat d'État aux questions financières reste prudent. Il y a encore beaucoup d'éléments ouverts qui suscitent la controverse, a-t-il indiqué mercredi. Il n'est pas clair quelles seraient les pertes pour la Suisse. Mais on peut déjà partir de l'idée que les petits pays dont la richesse est fondée sur l'innovation et les exportations doivent s'attendre à des pertes fiscales. La Suisse n'est pas fondamentalement opposée à une solution de l'OCDE. Elle prône une approche multilatérale afin d'éviter des mesures unilatérales comme une taxe numérique nationale. La Confédération défend cependant le principe d'une imposition sur le lieu de la création de valeur des biens comme cela s'est fait jusqu'à présent. La part des bénéfices imposés dans d'autres pays devrait être faible. Quant au taux minimal d'imposition prévu par l'OCDE, le secrétariat d'État aux questions financières indique que la Suisse s'engage pour le maintien de la concurrence internationale entre les pays. Le nouveau système pourrait au contraire freiner la croissance et redistribuer les recettes de l'imposition. Le ministre des Finances, Uli Maurer, avait évoqué ses plans au Conseil national en juin. « Cela pourrait bouleverser notre régime fiscal », avait-il dit. « Les pertes fiscales risquent de se chiffrer en milliards de francs ». Selon l'OCDE, les pays dits de marché et les pays en développement seraient les gagnants de cette réforme fiscale et les perdants seraient les paradis fiscaux qui hébergent les sièges sociaux des multinationales. Les travaux seront présentés lors de la prochaine réunion des ministres des Finances du G20 à Washington, les 17 et 18 octobre. La pression des procès favorise l'impunité. Interview. Daniel Uribe, responsable de programme au Centre Sud, organisation issue de pays en développement, sise à Genève, revient pour le courrier sur l'impact des clauses de règlement des différends, RDIE. Quelle est la spécificité de l'arbitrage d'investissement pour les pays en développement ? Daniel Uribe. C'est un outil qui permet aux investisseurs de se protéger contre des situations sociales et politiques qui leur déplaisent. En 1987, le premier cas connu de RDIE opposait le Sri Lanka à des investisseurs qui s'estimaient lésés par la guerre civile. Lors de l'explosion de ces procédures dans les années 2000, l'Argentine exsangue et des pays de l'ex-URSS déstabilisés ont subi à eux seuls des dizaines d'arbitrages éreintants. Quels en sont les impacts ? Dans plus de 400 arbitrages, des investisseurs réclamaient plus de 100 millions de dollars. Une dizaine de procédures ont conduit à des versements de plus d'un milliard. Ce sont des sommes impensables pour des pays du Sud. Exemple, le pétrolier ConocoPhillips réclamait 30 milliards au Venezuela, un cinquième de sa dette souveraine. Si l'amende ne fut que de 8 milliards, l'impact sur l'économie du pays a été radical. C'est autant d'argent qui ne financera pas l'éducation, la santé, le développement. Et bien sûr, si ces pays ne payent pas, ils s'exposent à une grève des investisseurs qui risquent elles aussi de mettre à genoux leur économie. La multiplication de ces procédures réduit l'espace de souveraineté législatif. Elle exerce une pression menaçante qui, en inhibant les réformes en matière de droits humains, sociaux et environnementaux, favorise l'impunité des multinationales. Les pays renoncent à ces accords d'investissement. Oui, maintes États se sont plaints d'un système qui soumet leurs institutions et leurs politiques économiques aux desiderata d'entités privées. L'Afrique du Sud a dénoncé plusieurs de ces accords et tente de s'appuyer sur sa législation nationale, alors que l'Équateur évalue depuis 2008 la possibilité d'adopter des traités alternatifs limitant les prérogatives des investisseurs.
Dans le numéro 426 du 8 novembre 2019 de Vigous, le petit satirique roman, nous avons découvert un article sous la plume de Laurent Flutsch qui s'offusque des liaisons entre l'ONU, censée défendre les intérêts des peuples, et le WEF, le plus vaste lobby du secteur privé, chien de garde des milieux des affaires et de l'économie. Quel n'est pas notre plaisir de le partager dans cette émission sur les multinationales. Nous remercions une fois de plus et vigoureusement Vigous et plus particulièrement Laurent Flutsch qui nous a donné carte blanche pour la lecture de cet article. Voici donc « Liaison dangereuse ».
Les Nations Unies entendent agir pour le bien de l'humanité, avec des partenaires qui entendent agir pour le bien de leurs actionnaires. On se demande si ça va marcher. Dénoncé par l'ONG Swiss Public Eye, les fiançailles entre la fêtière mondiale des États, l'ONU, et le Forum économique de Davos, le WEF, sont passées inaperçues dans les grands médias. Elles soulèvent pourtant de sérieuses questions sur ce que d'aucuns appellent, sans doute par plaisanterie vu la gabegie planétaire, la gouvernance mondiale. Cet été donc, l'ONU et le WEF ont signé en toute discrétion, pour ne pas dire en catimini, un cadre de partenariat stratégique, lequel n'est publié que sur le site du WEF. Nettement moins bravache, l'ONU quant à elle s'abstient de s'en vanter. C'est curieux car le partenariat en question, sur le papier du moins, n'apporte que des choses tout à fait merveilleuses. Il vise à atteindre avec une rapidité et une efficacité accrue les objectifs de l'agenda 2030 pour le développement durable, Plan mondial pour la santé, pour la prospérité et pour une planète saine. Il prévoit que les deux partenaires se focalisent sur des priorités sélectionnées en commun, au gré d'une collaboration stratégique et coordonnée. Ce sont des mots très chouettes. Grâce à ce pacte mirifique, ONU et WEF vont s'entraider pour renforcer leur impact, partager leur réseau, leurs connaissances et leur expertise, favoriser les opportunités d'innovation. Le tout dans 6 perspectives exaltantes. Mieux financer l'agenda 2030 pour le développement durable, mieux affronter le changement climatique, mieux agir face aux enjeux sanitaires, mieux gérer la révolution digitale, mieux promouvoir l'égalité entre les sexes et l'accès des femmes aux responsabilités, mieux assurer les progrès de l'éducation. Bref, c'est vraiment chouette. Derrière les belles déclarations, la réalité est hélas moins guirette. Que l'on sache, l'ONU est censée agir comme garante du droit international, de la protection de l'enfance et des droits de l'homme, entre autres. Le WEF, lui, est le plus vaste lobby du secteur privé, avec pour but évident de favoriser les affaires. Et il compte parmi ses éminents affidés des pieuvres multinationales pour qui la loi du marché, le profit et les dividendes priment sur les nobles principes onusiens. Qu'il s'agisse de pompage d'eau ou d'extraction de minerais, de pesticides ou d'OGM, de pétrole ou de produits financiers, d'armement ou de tabac, le joli monde du business a trop souvent montré, et montre encore à tout bout de champ, son aptitude à bafouer les droits humains, le droit du travail, la santé des populations et l'environnement, si ça peut enjoliver ses bénéfices. D'où l'interrogation. L'alliance entre les Nations Unies et le WEF ne serait-elle pas un brin contre nature? De fait, l'ONU, déjà malmenée et affaiblie par les roitelets tels que Trump, Poutine, Erdogan, Netanyahou, devrait en principe défendre le multilatéralisme démocratique fondé sur le droit international. Elle devrait renforcer les remparts étatiques contre l'emprise croissante des sociétés privées transnationales. Elle devrait protéger l'intérêt public contre des puissances économiques déjà trop introduites dans les cénacles politiques. Elle devrait défendre le droit et les populations contre une prédation financière qui aggrave les inégalités. Au lieu de quoi l'ONU s'associe avec les intérêts privés non démocratiques, qu'elle intronise à la codirection officielle du monde. C'est un peu comme si l'association des bergeries faisait rentrer le loup dans son comité. Du point de vue du WEF, c'est évidemment tout bénef. Son patron, Klaus Schwab, a d'ailleurs toujours rêvé de formaliser le rôle gouvernemental du Forum de Davos. La signature du cadre de partenariat stratégique y satisfait, tout en offrant aux puissances privées une avantageuse opportunité de se profiler comme les bienfaitrices de l'humanité, soucieuses des causes sanitaires, sociales et écologiques. On sait ce que ça vaut en vrai, mais ça fait rudement bien dans la communication. Sous le titre « La gouvernance globale sous l'emprise des entreprises », l'accord de partenariat entre le Forum économique mondial et l'ONU est une menace dangereuse pour le système onusien. Quelques centaines d'ONG ont adressé une vigoureuse lettre de protestation à Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Sa conclusion, choisir de construire une alliance avec, ouvertes les guillemets, les sociétés transnationales pour sauver le système des Nations Unies, tant de ceux qui sont hostiles au multilatéralisme que de la diminution du financement public, ne sauvera pas le système des Nations Unies. Il le détruira. Fermez les guillemets. Ces mots-là, disons-le, ne sont pas chouettes. Ils sont même méchants. Car après tout, l'ONU ne fait que confirmer officiellement ce que tout le monde sait déjà. C'est le fric qui gouverne le monde.
«
Au terme de ce billet, nous remercions Raphaël et Basile Desplans pour leur contribution à la lecture des articles. Nous remercions également l'équipe de Radio Django qui nous permet de poursuivre l'émission. À la conception, réalisation de cette thématique et à sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Rédacteur responsable, Patrick Rion. À la semaine prochaine.